Avec notre manger de poc du jour, Bruno Gervais, comment ça va? J'allais dire Jervy.
ça va très bien, puis vous autres?
Là, on est dans un surnom aujourd'hui. Ouais. Les gars viennent de découvrir Docker, puis là, Patty pour Patrick Lainé. Là, tu vas être Jervy pour la journée. C'est correct avec toi, ça? C'était ça ton surnom?
Non, mais j'en ai eu quelques-uns, mais ça, c'est le classique, ça. C'est que tu prends le début d'un nom de famille, puis tu sacres un Y. C'est ça le truc. Ça fait un surnom. Des fois, R, ça fait plus rough, mais c'est pas mal le petit go-to là, pour en faire un vite. Le gars vient de se faire échanger, genre, il rentre d'un vestiaire. T'as 30 minutes pour y trouver un surnom, c'est ça que tu fais.
C'est vrai que c'est mieux Docker que Daki. Mettons que ouais, c'est Docker.
Ça. Quelques-uns, tu y vas, c'est ça. Tu y vas avec le ER pour amener ça un peu plus raide.
Maintenant, moi, j'aurais aimé ça être en charge de... Ça, j'aurais été bon là-dedans. Pour jouer au hockey, j'aurais vraiment pas été bon, mais si tu m'avais mis dans un vestiaire, j'aurais été bon de trouver des surnoms à tout le monde. J'aurais eu au moins ce rôle-là.
C'est un rôle. Tu sais, ça prend de tout dans un vestiaire. Ça peut être ça. C'est un rôle, un bon gars de vestiaire.
OK, là, il y a eu énormément de déclarations intéressantes, Bruno, de Martin Saint-Louis. Oui, FX?
Non, mais si jamais on a besoin d'un extrait...
Ben, en fait, on l'a entendu il y a quelques minutes. Là, je pense que c'est assez clair que quand on a parlé du désavantage numérique, notamment, parce qu'on a posé la question à Martin Saint-Louis, Bruno, suite aux pertes de Army et de Devo également, pour continuer dans les surnoms, que et c'est une zone qui inquiète un petit peu chez le Canadien de Montréal. Parlons de David Savard également, qui a quitté pour la retraite. Mais Martin Saint-Louis a nommé deux noms qui, selon lui, sont des très, très bons candidats pour avoir des responsabilités accrues pour tuer des pénalités, notamment, j'allais dire Josh Anderson. Il va prendre encore plus de responsabilités qu'il en avait, mais Alex Newhook, bien sûr, qui pourrait se faire donner cette mission-là dès le début de la saison, mais aussi le capitaine Nick Suzuki. Longue prémisse pour te poser la question. De donner la première vague d'avantages numériques à Nick Suzuki, de lui donner des responsabilités à 5 contre 5, mais aussi le désavantage numérique. Là. Est-ce que, selon toi, si on donne tout ça, là, on peut transformer Nick Suzuki en un finaliste ou un nommé au Trophée Norris?
Bien, le Norris, ça va être dur. Ça prendrait vraiment une grande manipulation de la formation par Martin Saint-Louis. Je peux voir Hudson Suzuki comme une bonne paire de défense, c'est possible. Le Selke, lui, par exemple, ça pourrait être possible. Moi, je pense que j'irais avec le Selke en premier. Il est déjà dans le radar, il est déjà dans ceux qui sont pas loin par ce qu'il faisait dans le passé, même à 5 contre 5. Le 2 ans, on l'a vu jouer un peu plus en avantage numérique. Son nom va se glisser là par la qualité de son jeu. Puis s'il se retrouve, c'est certain qu'un gars qui se retrouve avec un peu plus de désavantages numériques, puis qui fait parler son talent, comme on voit un Barkov faire, comme on voyait un Patrice Bergeron faire, ça, c'est des gars qui étaient des menaces sur le désavantage numérique parce qu'ils étaient tellement intelligents, puis avec leur talent offensif, si tu leur donnais une opportunité où tu as seulement un défenseur sur la patinoire, ben c'est pas évident contre ces gars-là. Fait que oui, c'est quelque chose de possible selon moi. Ce qui va être dangereux dans cette situation-là, c'est la gestion de cette grande source-là d'énergie qui a un Suzuki. Je sais que Martin, il a pas peur de se pencher puis de vraiment s'appuyer sur ses gros canons en termes de temps de glace. Mais tu vas avoir de la qualité. Des fois, qualité et quantité vont pas tout le temps ensemble. Puis je pense que le fait que tu as un peu plus de talent offensif, tu t'obligeras pas à mettre Suzuki sur deux vagues d'avantages numériques comme on a vu l'année dernière. Fait que est-ce que tu peux prendre un peu de ce temps-là pour le mettre en désavantage numérique puis garder ça à un niveau respectable pour lui? Je pense que oui, mais il va tellement avoir de rôles importants pour Suzuki dans toutes sortes de situations de match que oui, tu peux le glisser là, mais il va avoir une grande gestion du cadran, des circonstances, de la situation dans le cas de Suzuki cette année parce que présentement, il y a beaucoup de points d'interrogation à ce qui est derrière lui.
Ce qui est de sa production offensive, Bruno, l'an dernier, Suzuki, 89 points, son plus haut total dans une saison dans la Ligue nationale. Si jamais il obtient plus de minutes en désavantage numérique, comme c'est peut-être le but en vue de la prochaine saison, est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir sa production offensive diminuer?
Ben, ça va dépendre, t'sais, parce que c'est un peu, c'est le reste. Je pense que l'avantage numérique, il y avait beaucoup d'opportunités là-dessus pour lui. Est-ce que cette année, ça va être diminué par le fait qu'il est juste sur une des deux vagues? Qui est sur la première vague et qu'on y va un peu plus balancé à ce niveau-là. Mais des fois, enlève un peu de quantité, t'augmente la qualité de certaines choses. C'est un joueur qui est tellement résilient, qui a tellement de constance dans son jeu, dans sa façon de faire. Et il peut trouver d'autres manières. Tu sais, il y a des gars qui font moins, qui ont un peu moins de temps de glace que lui dans la Ligue nationale, qui ont été capables de faire ces points-là. Fait qu'est-ce que tu peux aller chercher cette qualité? Moi, je pense que c'est possible. Mais c'est sûr que dans un rôle d'un joueur comme lui, qui est bon dans plusieurs aspects du jeu et pas seulement offensivement, oui, il vise à être dans l'élite. Être dans l'élite de la Ligue nationale, c'est pas juste en ayant 95 points, c'est avec tout ce qui entoure ça. Puis ça aussi, il le fait très bien.
Les gars, je nous trouve prudents un peu quand on dit qu'on veut pas trop l'exposer ou qu'on veut pas trop lui donner de responsabilité, parce que pour moi, Nick Suzuki a évolué à chaque saison, puis à chaque fois qu'on lui a donné un défi, c'est il l'a rempli. Je veux pas dire...
Ben, haut la main quand même, là.
Haut la main. Je voulais pas dire facilement, mais haut la main, c'est ça. Quand on voit son évolution à chaque fois, surtout depuis Martin Saint-Louis, il y a une évolution incroyable. Puis, tu sais, Bruno, je te nomme quelques noms qu'on a nommés en début d'émission. Andrzej Kopitar, Barkov, Patrice Bergeron. Est-ce que Nick Suzuki... Tu sais, c'est des gars qui jouaient... En fait, dans le cas de Barkov puis dans le cas d'Andrzej Kopitar, le font toujours en avantage numérique, ont le même type de responsabilité qu'on viserait à donner à Nick Suzuki cette saison. Est-ce qu'il fait partie de cette classe-là selon toi ou non?
Moi, selon moi, oui. Tu sais, c'en est un. Puis quand tu regardes à travers la Ligue nationale, il est dans les joueurs, tu sais, bien utilisés, là, avec ses au-dessus de 20 minutes. Je pense qu'il est dans les top 30 au niveau des attaquants. Il fait partie de cette élite-là parce que tu peux le mettre dans plusieurs de ces situations-là. Dans les équipes peut-être un peu plus aguerries, tu as un meilleur équilibre dans tout ce qui est tes attaquants. Tu as peut-être plusieurs outils sur lesquels tu peux t'appuyer. Mais tu as des gars qui t'ont tout le temps amené ça. Quand tu regardes un Kopitar, quand tu regardes un Barkov, quand tu regardes certains de ces joueurs-là, il y a une composante de leur force physique, puis de juste de ce qui, physiquement, naturellement, ce que le joueur peut faire. C'est un peu plus dur pour certains joueurs, peut-être de plus petits gabarits ou pour qui physiquement tu dois compenser. Tu sais, tu regardes jouer un Barkov, là, il est tellement bon avec le corps interne, le corps externe de ses patins. Il n'a pas besoin d'épuiser d'énergie inutile. Il a un long bâton. Mettons que la charge. Quand tu prends toutes les données là, qu'ils ont maintenant là, avec le rythme cardiaque, tout ce qui est dépensé par le joueur, il y en a qui ont besoin d'un peu moins d'énergie pour aller remplir ces temps-là et remplir ces missions-là. Et moi, ce qu'on a vu d'un Nick Suzuki, c'est son intelligence. Parce que c'est pas le gars le plus rapide, c'est pas le gars le plus fort physiquement, mais son positionnement, son anticipation, c'est toutes ces façons-là, ces facettes-là font qu'il est capable de jouer au-dessus de 20 minutes dans la Ligue nationale, des grosses minutes, les plus grosses minutes que tu peux avoir contre les meilleurs adversaires tout le temps. Il est capable de s'en sortir avec la qualité et il est capable d'être, c'est la plus grande qualité d'un athlète, disponible. Il est là, il manque pas de match. Il est constant dans tout ça. Fait que, oui, selon moi, il fait partie de cette élite-là à travers la Ligue nationale. Puis c'est pour ça que lui-même se met ce défi-là. Depuis les Quatre Nations l'année dernière, il fait partie des discussions de l'élite de la Ligue et son nom est dans la conversation pour ce qui est des Olympiques parce qu'il fait partie de cette élite-là, puis il peut tellement t'en amener à la table que tu peux pas passer à côté de ce nom-là sans vraiment y réfléchir.
J'aime beaucoup ta réponse. Ça, c'est de la grande sagesse et de la grande connaissance du hockey, d'ailleurs, Bruno. Merci beaucoup. C'est de mettre Ivan Demidov dans les meilleures dispositions possibles en le faisant commencer la saison avec Docker et Paddy sur le deuxième trio. Parce qu'on le sait que le premier, c'est Suzuki, Caulfield et Slavkovski qui seront là. Es-tu d'accord avec ça ou non?
Ben, moi je pense que c'est une belle chose. Je pense qu'il va y avoir du mouvement. C'est quand même, tu sais, t'as un gars en l'aîné, en Paddy l'aîné, qui a eu tout un été d'entraînement, tu sais, qui est resté ici à Montréal, qui enfin est en santé, qui semble avoir beaucoup d'énergie, enthousiasme au début de cette saison-là. Et c'est un droitier. Et quand tu regardes jouer Demidov, on l'a vu un peu l'année passée, on l'a vu pendant le camp des recrues, comme gaucher qui se retrouve souvent à la gauche du gardien adverse, dans ce coin-là, qui remonte sur son côté fort. Puis combien de fois il a trouvé des Kapanen, combien de fois il a trouvé des Jack Eye qui jouaient sur son trio dans le match des recrues. L'année dernière, il y a eu à son premier match, Mené, il y a eu une longue présence, que comme il tirait un peu passé sa présence, mais ça l'a permis à Caulfield puis à Suzuki de sauter sur la patinoire. Puis combien de fois il est capable de faire des jeux de ce coin-là vers l'autre côté. Puis quand c'est un droitier, c'est un gros bonnie. Fait que moi, cette petite combinaison-là de Demidov et de Lainé, si Lainé est allumé puis il voit un peu de le jeu de Demidov, puis ce qu'il essaie de faire, puis ce qu'on le voit pratiquer aux entraînements, de se créer de l'espace, de se créer des façons de créer des lignes de passe de ce coin-là, et tu sais, t'es Lainé, là, tu te liches les babines, puis t'as hâte. Fait que oui, je pense que c'est le mettre avec quelqu'un qui va complémenter ce qu'il cherche à faire sur la patinoire. J'ai juste hâte de voir où Dak va fitter dans tout ça. C'est un excellent transporteur de rondelles. Avant qu'il se blesse, il y avait eu tout un début là, il y a 2 ans. Puis tu regardais, c'est le meilleur joueur du Canadien pour transporter la rondelle du haut des cercles de sa zone jusqu'en territoire adverse. Quand t'en as un qui est capable de faire ce travail-là, puis t'es capable d'aller travailler en territoire adverse pour un joueur offensif comme Demidov, ça aussi c'est du bonbon. Mais là, il y a juste le point d'interrogation sur l'aîné, sur Dacker. Voir il est où lui, il est rendu où, puis comment il va être pour ses débuts-là.
Il y en a beaucoup qui parlent de Lainé en disant, tu sais, il se traîne les pieds, il patine pas, beaucoup de revirements. Pour moi, dans ce que j'ai observé, puis corrige-moi si je me trompe, je demande juste à me tromper, mais quand il a créé des revirements, c'était justement sur, il y avait une vision d'un jeu qui s'en venait, puis il essayait de fabriquer quelque chose, puis la passe devenait trop longue, puis il sortait de sa game un peu. Là, si Ivan Demidov, qui lui est un créateur exceptionnel de jeu, qui a ce talent-là, ce potentiel-là, est capable de l'envoyer à Lainé, de le trouver, que Lainé a juste à se rendre disponible, à se libérer dans zone offensive, Lainé va être capable de soit de tirer sur réception, s'il est déjà libéré à ce moment-là, de défaire, de déculotter le gardien, puis de compter des buts. Moi, ce duo-là, j'y crois énormément sur les deux ailes. Puis j'ai la même interrogation que toi pour le centre. Ma lecture, est-tu pas bonne ou non sur les revirements qu'il y a eu à ce moment-là, Patrick Lainé?
Bien, il y en a eu de toutes sortes. Puis oui, ça, c'est un élément. C'est qu'il faut que tu choisisses tes endroits. Puis tu sais, Martin le dit souvent, c'est il faut que tu sois capable de prendre ce qui vient à toi et non de forcer le jeu. Puis souvent, l'aîné voulait forcer parce qu'il rentrait, puis là, tout d'un coup, il voulait créer un jeu quand il n'y en avait pas. Ça peut aller des deux bords. Quand tu es avec quelqu'un que oui, il peut en créer ça, si tu te mets à chercher trop, bien, ils vont baigner dans les jeux qui ont un bas pourcentage de réussite, puis les deux vont se tirer dans le pied, puis ça va être du trouble, puis ça va mettre Martin dans une situation où tabarouette, ça va être dur de trouver les moments pour glisser ces gars-là sur la patinoire sans que ça nous coûte cher. S'ils sont capables de choisir les moments où ils laissent parler leur talent, puis le reste du temps faire avancer la rondelle, progresser la rondelle, puis se donner une chance de jouer en territoire adverse, bien, ça va fonctionner. Mais c'est sûr que si à chaque fois sont arrêtés les deux pieds mobiles, 3 pieds en dedans de la ligne bleue adverse, puis qu'ils tentent une passe soulevée à travers 3 bâtons, bien, je me fous que tu t'appelles Demidov, McDavid, Dreisaitl, n'importe qui. C'est un jeu à bas pourcentage. Fait que tu vas te tirer dans le pied sur le long terme. Mm-hmm. Si tu tentes de faire des jeux, par exemple, du bas du territoire, tu as fait progresser la rondelle, tu viens jouer en bas des oreilles, puis tu remontes, puis là, tu essaies de trouver le droitier qui est au bord, qui est positionné pour un tir. Ça, j'ai pas de misère avec ça. Parce que même si ton jeu, ça crée un revirement, tu peux revenir, tu n'es pas pris à contre-pied, tes défenseurs sont installés, ils peuvent avoir un bon gap, puis tu ne feras pas. Il faut que tu l'essaies. Il y a des endroits pour essayer ces jeux-là. Puis moi, mon risque, le petit point d'interrogation, c'est que j'espère que Demidov va apprendre rapidement, d'où l'influence de ses coéquipiers, des vétérans de l'équipe, qui va apprendre rapidement où et quand utiliser son talent, puis où et quand être un joueur efficace, puis faire avancer la rondelle, puis embarquer un peu plus dans la structure qui existe pour te permettre d'aller jouer en territoire adverse. Fait que ça va faire partie de l'apprentissage rapide du jeune homme de 19 ans. Jusqu'à maintenant, moi, il m'épate dans cette facette-là, dans ses choix, dans être capable de placer la rondelle quand c'est le temps, être capable de prendre une bonne décision rapidement. Mais des fois, tu t'embarques, t'es gros, tabarouette, lui, il veut faire des jeux, lui, il est là, lui, je reviens au bain, il dit qu'il était tout seul, fait que je vais peut-être l'essayer, la passe de trop. Ça peut vite devenir un sujet irritant pour les entraîneurs.
Je trouve quand même pas ça normal qu'on mette, tu sais, là je dis pression, c'est peut-être moi qui mets moi-même la pression, mais de mettre un peu cette pression-là sur les épaules d'un gars de 19 ans, d'être en mesure quand même de... Parce que Jeff Gorton en a parlé durant le tournoi de golf de driver, si on veut, là, d'être la locomotive d'un deuxième trio, d'avoir un allié qui est capable de faire ça en demi-dov. Tu sais, Kirby Doc qui a été opéré pour une deuxième fois au genou, commencé la saison avec lui. Après ça, Patrick Laine, on a vu des hauts, on a vu des bas la saison dernière. C'est-tu moi qui pense que c'est trop de pression à mettre sur un jeune de 19 ans de devoir être la locomotive d'un trio avec Patrick Laine et Kirby Doc? Est-ce qu'on lui rend vraiment service à Ivan Demidov, Bruno?
Ben, c'est sûr que tu veux pas te ramasser à mettre de la pression sur un jeune joueur comme ça. Surtout avec une équipe qui a un noyau qui est quand même, qui est là depuis quelques années quand même. Sauf que, je sais pas si tu te rappelles l'entrevue de Demidov avant qu'il soit repêché. Puis il avait sorti quelque chose dans les lignes de « je vais être votre joueur de franchise » ou « tu sais, c'est un gars qui… »
Puis, il avait demandé est-ce qu'on, si t'es libre cinquième puis qu'on te repêche pas, est-ce qu'on est fou? Puis il était parti à rire puis il avait dit « yeah, ouais. rien
». Ben oui, puis c'est un peu ça que tu veux. Puis tu sais, j'ai entendu Pascal Vincent mentionner ça. Il a levé son chapeau à Martin Lapointe et à Annick Bobrov. D'aller chercher le caractère des gars qui rentrent dans cette organisation-là. Un après l'autre, c'est des gars qui tirent, qui sont des locomotives ou des leaders positifs à leur façon. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est le genre de choses que tu ne lances pas dans les airs comme ça si tu connais pas le joueur. Puis j'ai l'impression que tu viens pas de rajouter de la pression à Demidov parce qu'il voit ça comme ça. C'est un gars qui, avec sa fougue, son énergie, puis ce qu'il est capable d'amener, il va juste tirer les autres vers l'avant. Puis t'es là juste pour... T'es pas là pour le pousser, tu vas être là pour juste l'encadrer.
Exact.
Juste des rails, les garde-fous de chaque côté. Regarde, va-t'en pas trop à droite, va-t'en pas trop à gauche, mais vas-y là-dedans, puis vas-y à 100 000 à l'heure. Fait que je pense qu'ils sont capables de voir ça en lui, mais il y a pas de... Tu sais, moi, à mes yeux, j'ai pas de nombre de points en tête. Je veux juste voir son énergie, sa créativité, faire des jeux, puis le voir progresser pendant la saison. Puis avec le talent qu'il a, ça va juste être du positif.
Avec le début du camp d'entraînement, il faut bien s'amuser un peu. Les gars du matin ont fait leur trio. Georges Gonzo ont fait leur trio. Et avec les informations que Martin Saint-Louis nous a données dans son point de presse tantôt, on demande maintenant à notre Bruno Gervais de faire ses trios également. Bruno, on t'écoute.
Ben moi, je m'amuse un peu avec ça. La manière que je le vois, c'est que t'as 11 joueurs là, qui tu peux plus écrire au crayon à l'encre, puis t'as le 12e attaquant et le 13e attaquant qui vont se disputer entre Blais, Veleno, Kapanen, Jacky, Beck, Roy, dans ces gars-là. C'est sûr que t'as le trio Caulfield, Suzuki, Slav, à qui tu peux donner le début de saison, la première partie, voir de quoi ça a l'air, si t'as besoin éventuellement de bouger les choses, mais de commencer avec ça. On a entendu parler de Laine, Dak et Demidov depuis le début, là, qui fait bien du sens de commencer. Ensuite, le trio de Evans, Gallagher et Anderson, qui peut être un trio de rôle pour commencer. Puis ça laisse l'espèce de troisième trio de Newhook, Bolduc et point d'interrogation. Est-ce que Veleno pourrait rentrer là? Est-ce qu'un Joshua Roy pourrait rentrer là avec un Bolduc? Est-ce que, tu sais, c'est quel genre de trio, quel genre d'identité que tu as besoin? Est-ce que si tu vois que tu n'as pas de réponse sur le désavantage numérique, est-ce qu'un Blais peut tirer son épingle du jeu puis amener ce genre de papier sablé-là puis de joueur de rôle de désavantage numérique dans ces situations-là? C'est là que ça va être intéressant. Pour le moment, moi, je me lance à commencer avec un Bolduc, Newhook et Blais et Veleno comme 13e attaquant. Donc, une permutation entre le Veleno et le Blais, les vétérans, les gars qui ont été cherchés, qui ont beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale. Ce qui permet à un Kapanen d'être un joueur d'impact dans la Ligue américaine. On le voit responsable. Je pense que Martin Saint-Louis a confiance qu'il peut le mettre dans plein de situations parce que son intelligence, sa lecture du jeu. Mais il y a un plafond offensif peut-être un peu plus haut de ce qu'on a vu à date à Montréal. Fait que lui permettre de travailler ça à Laval, je pense que ça va être important. Puis il n'y a pas de presse à ça justement parce que tu as de la profondeur. Même chose avec un Owen Beck, avec un Florian Jacky. Là, tu as le Joshua Roy qui est comme un peu sur la ligne, qui pourrait venir brasser cette soupe-là. Mais c'est comme ça que je le voyais commencer.
Tu as placé Gallagher avec Anderson sur le même trio. Je sais que j'en vois plusieurs faire leur trio, Bruno, et séparer Anderson-Gallagher. Est-ce que pour toi, de les mettre sur le même trio, c'est juste parce que c'est une continuité avec ce qu'on a vu l'an dernier avec Christian Dvorak?
Oui, c'est un peu ce que j'ai... On l'a vu l'année dernière. Je pense que ça les permet d'être en rouge. Il y avait une belle connexion dans l'identité de ce genre de trio-là. Quand tu regardes les autres éléments des trios, ils ont peut-être une façon de jouer un peu différente, mais ça t'empêche pas. Tu n'auras pas le choix. Jamais il y a une équipe qui commence avec quatre trios puis garde les mêmes trios pendant 30 games. Il y a tout le temps des permutations. Fait que ça peut t'amener à bon, est-ce que tu essaies Anderson? Est-ce que tu montes Anderson avec Bolduc? Est-ce que tu viens brasser un peu la soupe, que tu tasses Slavkovski, tu viens mettre un Demidov là, tu viens mettre un Bolduc avec un Dak? Tu sais, il va y avoir plein de façons de faire. Il va y avoir des permutations selon si tu es sur la route, tu es à la maison, tu as une blessure. Tu sais, ça change tellement rapidement. C'est ce qui est le fun pour Martin Saint-Louis présentement, c'est que tu as plusieurs options, tu as plusieurs outils, puis tu as plusieurs outils différents. Fait que c'est là que tout le monde est en train de se peaufiner son jeu, puis qu'est-ce qu'ils peuvent amener à la table. Puis tu mets pas un blé dans la formation si tu as besoin de ce que Veleno apporte. Puis tu sais, même chose avec Joshua Roy, puis même chose avec Kapanen, puis même chose avec Florian Jacquet. Tu sais, c'est tous des gars qui amènent des choses différentes,
ouais,
qui vont continuer d'évoluer leur jeu. Puis à un moment donné, tu vas pouvoir aller choisir ton outil selon ce que tu as besoin.
Effectivement, ça va être intéressant. Puis ces trios-là, comme tu l'as mentionné, peuvent être, on parle du quatrième trio notamment. Est-ce qu'on peut voir plus de temps que jeu dans certains matchs que le troisième, vice-versa, tout ça? Ça va être des belles questions à se poser. Puis effectivement, on a une grosse lutte pour un seul poste.
Ben, c'est ça ce que j'allais dire. Ouais.
À l'aile, ça va être... écoute, ça pimente un petit peu ce qui s'en vient au camp d'entraînement. Bruno, merci de ces quelques minutes aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve vendredi avec celui que tu surnommes Mad Max. Max Talbot, qui va être avec toi sur le coup de 15h dans les mangeurs de Puck. C'est du gros fun de faire ça avec vous autres. Alors, merci encore.
Hey, le plaisir est pour nous. J'ai bien hâte. On se revoit vendredi, la gang.
Salut, Bruno.
Prends bien soin de toi d'ici là.